frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi de me retrouver une fois de plus encore au milieu de vous pour prier avec vous, pour célébrer cette Eucharistie avec vous et pour vous. Et au cours de cette messe, nous aurons la grande joie de baptiser un enfant de la paroisse. Nous rendons grâce à Dieu pour ses merveilles. Les textes proposés pour la méditation d'aujourd'hui sont centrés sur la puissance de Jésus, le Fils de Dieu, notre Maître. Il y a 2 ou 3 semaines, nous avons suivi tour à tour l'évangile de Saint Marc qui nous a parlé de l'appel des 12, de leur instruction par Jésus, leur envoi en mission et leur retour de la mission, c'était semaine dernière. Et lorsque ces apôtres étaient rentrés de leur stage pastoral, leur stage missionnaire, Jésus leur a dit qu'il faut se retirer à l'écart pour se reposer. Car les partants et les venants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas le temps de se reposer. Ils ont pris la barque pour aller de l'autre côté de la rive. Mais à peine arrivés, la foule venait de partout pour rencontrer Jésus et ses disciples. Et Saint Marc nous a dit semaine dernière que malgré que les apôtres étaient fatigués et Jésus avec, le Christ a laissé ses apôtres pour continuer à instruire la foule longuement. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un arrêt sur l'évangile de Saint Marc et nous commençons le chapitre 6 de Saint Jean, centré sur le discours sur le pain de vie. Et nous allons lire cela pour quelques dimanches encore. Pour comprendre l'évangile d'aujourd'hui, nous avons la première lecture qui nous montre le prophète Élisée qui a reçu d'un homme de Baal-Chalissa un peu de nourriture. Mais Élisée a dit à ceux qui étaient avec lui de donner à tous les gens rassemblés autour de lui afin qu'ils puissent manger. Avec peu de nourriture, le prophète Élisée a pu nourrir, selon le texte de la première lecture, 100 personnes. Élisée n'a pas fait cela de ses propres forces, mais puisqu'il a été appelé par Dieu pour être prophète et envoyé, eh bien Élisée a compté sur celui qui l'a appelé pour faire de lui un prophète. Alors il a été capable, avec peu de nourriture, de nourrir 100 personnes. Et cela s'est fait grâce à cette parole. Donnez-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Élisée n'a pas dit, ainsi parle le prophète Élisée, mais ainsi parle le Seigneur, on mangera et il en restera. Le chrétien, s'il compte sur Dieu, s'il fait reposer sa force en Dieu, peut accomplir les mêmes œuvres que le prophète Élisée, que les apôtres, aussi comme Jésus, notre Maître et notre Seigneur. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir foi en Dieu. Par la foi que nous avons, par la confiance que nous avons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous pouvons poser les mêmes actes que les prophètes. Et c'est ce que Élisée nous enseigne dans cette première lecture. La deuxième lecture proposée pour la méditation d'aujourd'hui nous vient de l'apôtre Paul quand il se trouvait encore en prison. Lui-même nous parle en ces termes. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Notre vocation chrétienne consiste en deux choses: aimer Dieu de tout ce que nous sommes et faire l'effort d'aimer les autres comme nous-mêmes. Nous ne pouvons dire que nous aimons Dieu que lorsque nous faisons l'effort d'aimer les hommes, nos frères. Et c'est en cela que réside notre vocation chrétienne. Et l'apôtre Paul nous le rappelle dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Et il continue à nous instruire. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Les chrétiens sont ceux qui sont toujours unis. Et notre unité vient du fait que nous imitons le Christ qui est humble, doux et patient. Et nous verrons la patience de Jésus avec la foule dans l'Évangile. Jésus qui passe de l'autre côté de la mer de Galilée, appelé encore le lac de Tibériade. Il était certainement fatigué si nous retournons dans le texte de la semaine dernière. Même si ce n'est pas les mêmes évangélistes, nous avons fait un arrêt pour reprendre le chapitre 6 de Saint Jean, dont Jésus serait certainement fatigué. Mais il a vu que la foule l'a suivi. Il a gravi une montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Et le texte nous dit que la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Donc la multiplication des pains dont il est question dans cette page de l'Évangile va en droite ligne avec la fête de la Pâque des Juifs qui était proche. À la Pâque, on rompt le pain. Et ici, Jésus fera le même geste avec quelques morceaux de pain et quelques poissons. Il va nourrir une grande foule. Mais pour faire cela, Jésus va d'abord mettre ses apôtres en confiance. Il pose cette question à un d'eux, Philippe. Où pourrons-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Philippe donnera une réponse économique à Jésus. Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun d'eux reçoive un peu de pain. Nous pouvons donc imaginer la suite. Puisque le salaire de 200 journées ne peut pas suffire pour que ces 5000 hommes puissent avoir quelque chose à manger, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les renvoyer chez eux. Voilà un homme qui maîtrise bien sa leçon d'économie comme apôtre du Christ. Mais le disciple André, l'apôtre André, qui est le frère de Simon, lui qui a introduit Simon à Jésus, fera la même chose en introduisant un petit enfant à Jésus. Cet enfant va porter avec lui quelques morceaux de pain et de poisson. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Et la suite ressemble un peu à ce que Philippe a dit. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Nous pouvons aussi imaginer la suite. Il n'y a que 5 pains et 2 poissons. Ils sont 5000. On ne peut pas les nourrir avec. Donc il faut les renvoyer pour qu'ils puissent aller chercher quelque chose à manger. Et c'est Jésus qui va donner la réponse juste. Faites asseoir les gens. Et avec le pain du petit garçon et ses poissons, Jésus va lever les yeux au ciel. Et chaque fois que Jésus lève ses yeux au ciel, il communique avec son Père. Il nous laisse cela comme un exemple. En face d'une action chrétienne à accomplir, en face d'une décision à prendre comme apôtre de Jésus par le baptême que nous avons reçu, nous avons cette obligation-là de communiquer avec Dieu notre Père, celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Jésus va lever ses yeux vers le ciel. Et puis après, il va prendre les pains, il va rendre grâce à Dieu, et puis il les distribuera. Il passera les pains aux apôtres qui vont distribuer, n'est-ce pas, à ces 5000 hommes. On ne parle pas des femmes, on ne parle pas des gamins. Ils seront certainement plusieurs, mais nous avons au moins le chiffre 5000 hommes. Et avec les 5 pains et les 2 poissons, après la bénédiction, après la communication avec Dieu, de qui Jésus est venu et vers qui Jésus va retourner, eh bien, il va faire une multiplication. Et ainsi donc, tous ces hommes auront quelque chose à manger, au point où, au finish, on va ramasser 12 paniers de ce qui est resté. Les apôtres sont d'abord à la suite du Christ pour apprendre de lui, et être capable, après l'ascension du Seigneur, de continuer sa mission. Voilà pourquoi, à chaque occasion à accomplir, Jésus essaie de les associer, n'est-ce pas, à ce qu'il a à faire et à ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas besoin de demander l'avis de Philippe ou de André avant de multiplier les pains. Mais Jésus fait cela pour leur montrer que leur mission comme apôtre réside dans ça. Ils sont avec lui, pas pour le contempler, pas pour parler de lui des lèvres, mais pour poser des actes concrets. Et après lui, les apôtres poseront plus ou moins les actes que Jésus a posés. Juste après la résurrection, Jean et Pierre vont, n'est-ce pas, au niveau du temple, ils trouveront un homme paralysé qui le feront lever. C'est déjà une action que ces deux apôtres ont posée, et cette action-là, Jésus l'a posée avant eux. Donc Jésus a demandé l'avis de ses apôtres pour les associer à sa mission. Et aujourd'hui, Jésus associe chacun de nous à sa mission. En face des pauvres, en face des réfugiés que nous avons certainement beaucoup à Marseille, comme nous en avons beaucoup en Tunisie, certainement quelquefois nous nous posons des questions. Mais comment faire? Peut-être qu'il faut les renvoyer chez eux en Afrique. Certains ont l'habitude de dire, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? En Tunisie, c'est ce qu'on dit souvent. Mais qu'est-ce que ces réfugiés de l'Afrique subsaharienne viennent faire chez nous? Comme si eux ne sont pas chez les autres. Souvent, on oublie qu'on est aussi chez les autres comme réfugiés, on est aussi chez les autres comme mendiants, on est aussi chez les autres pour ceci ou pour cela. Le monde est petit et nous sommes partout. Et puisque nous avons reçu le baptême au nom de Jésus, il nous laisse, n'est-ce pas, comme message central aujourd'hui, que nous avons l'obligation de nous occuper les uns les autres comme ses apôtres. Le chrétien, c'est celui qui est capable de poser le regard de Dieu sur son frère. Sinon, nous serons comme Philippe. Nous posons d'abord un regard économique sur l'autre. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? On ne peut pas le nourrir, on ne peut pas l'aider, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Aider quelqu'un ne consiste pas seulement à sortir quelques euros pour lui donner, hein. Essayer de l'écouter, c'est déjà quelque chose. Et c'est le premier ministère de Jésus. Il a passé d'abord le temps à écouter la foule. Rappelez-vous, semaine dernière, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu multiplier les pains déjà semaine dernière, puisque la foule l'a suivi. Ils ont traversé le même lac de Tibériade pour aller vers Jésus. Il aurait pu déjà semaine dernière nourrir cette foule avec du pain, avec de n'importe quoi. Mais il a d'abord pris le temps de les écouter, de les préparer, de les enseigner. Et aujourd'hui, puisqu'ils ont passé du temps à écouter Jésus, Jésus a constaté qu'il faut maintenant répondre à leurs besoins physiques qui consistent à leur donner à manger. Et c'est seulement aujourd'hui que Jésus va multiplier les pains pour nourrir cette foule-là qui a pris tout son temps, toute sa patience pour écouter Jésus le Maître. Et c'est l'exemple que le Christ laisse à chaque chrétien. En face de quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui est dans le besoin, l'argent que nous donnons ne peut pas, si ça peut aider la personne peut-être à résoudre ses besoins ici et maintenant, mais alors demain comment il va faire? Si nous prenons le temps de l'écouter, nous pouvons peut-être orienter la personne et l'aider avec des réponses justes par rapport à ce qu'il traverse comme difficulté, comme problème. Mais si à chaque pauvre que nous rencontrons, pour se débarrasser de lui, il faut lui jeter une pièce d'euro, on ne résout pas son problème. Prenons un peu de temps d'écouter ceux que nous rencontrons, comme le Christ qui a pris son temps d'écouter plus de 5 000 hommes et de leur donner un enseignement. Et aujourd'hui, donc, il est capable, n'est-ce pas, de leur jeter quelques pièces d'euro sous forme de pain et de poisson. Et c'est ce que le Christ nous laisse aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Au cours de cette messe, nous allons conférer le sacrement de baptême à un de nos fils. Le baptême est le plus beau et le plus magnifique sacrement des dons de Dieu. Nous appelons le baptême don, grâce, onction, illumination, vêtement d'incorruptibilité, bain de régénération, sceau et tout ce qu'il y a de plus précieux. Le baptême est don, parce qu'il est conféré à ceux qui n'apportent rien. Le baptême est grâce, parce qu'il est donné même à des coupables. Le baptême est baptême lui-même, parce que le péché est enseveli dans l'eau. Le baptême est onction, parce qu'il est sacré et royal. Le baptême est illumination, parce qu'il est lumière éclatante. Le baptême est vêtement, parce qu'il voile notre honte. Le baptême est bain, parce qu'il lave. Le baptême est sceau, parce qu'il nous garde et qu'il est le signe de la Seigneurie de Dieu. Au nom de la foi des parents et la foi de cette communauté, nous allons conférer ce baptême à un de nos fils. Prions, mes chers frères et sœurs, pour que le Seigneur nous donne sa grâce d'accompagner cet enfant que nous allons baptiser afin qu'il puisse grandir dans la foi de l'Église catholique. Et que l'Esprit Saint qui est en chacun de nous à travers le baptême et la confirmation que nous avons reçue nous aide à pouvoir imiter le Christ sur la voie de l'humilité et sur la voie de la vie parfaite. Et qu'il fasse en sorte que, par sa grâce, nous puissions toujours marcher avec lui sur le chemin de la foi. Le Seigneur soit avec vous.